418-971-1001, si vous avez de l'information à nous transmettre, il se passe quoi que ce soit sur la route, merci d'être nos yeux, nos oreilles. À la météo aujourd'hui, c'est nuageux, il y aura de la pluie, c'est ce qu'on nous mentionne, et ce sera la même chose pour ce qui est de ce soir et cette nuit, maximum de 11. Demain, vendredi, c'est nuageux avec 60% de probabilité d'averse, un maximum de 13. Samedi, retour du soleil, donc beau soleil samedi, avec un maximum de 19. En soirée, ciel dégagé, minimum de 7. Et dimanche, ce sera nuageux avec 40% de probabilité d'averse, maximum de 16 degrés. Le ministre du Travail hier qui a fait beaucoup jaser, mais qui a fait plaisir à bien du monde. Est-ce que c'est pour quelques mois ou pour toute la vie? Ça reste à déterminer dans les prochaines semaines. Mais il va reporter d'un an l'entrée en vigueur des nouvelles normes du Code du bâtiment qui auraient coûté des centaines de millions de dollars aux futurs acheteurs et locataires. Et ça, c'est selon l'industrie de la construction. Il y avait un papier intéressant dans le Journal de Québec qu'on pouvait lire ce matin. C'est un texte d'opinion de William Trudel, qui est président et chef de la direction de Trudel, qui est avec nous ce matin. Salut, Will.
Bonjour.
Très content de t'avoir avec nous en studio. J'imagine que quand vous avez pris acte du nouveau code du bâtiment, vous avez pogné votre 2 minutes, là?
Tout le monde a pogné son 2 minutes, comme on dit. T'sais, nos architectes, nos ingénieurs chez Trudel ont fait affaire avec plus d'une dizaine de bureaux, là, t'sais, entre autres Groupa, Co-Architecture, Anson, Lemay Michaud, plein de bureaux très réputés à Québec.
Ouais.
Les gars, les filles, ils ont des maîtrises, ont des doctorats, une formation universitaire supervisée pendant des années de temps par la suite en bureau d'architecte. Puis eux-mêmes font affaire avec des compagnies, des firmes spécialisées en code, tellement que c'est compliqué.
Le code du bâtiment, je savais qu'il existait, je savais qu'on devait le respecter. Par contre, je connais pas son origine. Qui décide du code du bâtiment?
Alors, il y a un code du bâtiment national fédéral, qui est comme un genre de guide pour les provinces. Et puis les provinces essayent le plus possible de s'arrimer au code national. Par contre, chacune des provinces a quand même une certaine marge de manœuvre selon sa réalité. Par contre, par exemple, on parle de réalité géographique. Bien, ce ne sont pas toutes les provinces qui ont la même réalité de risque d'inondation. Ce ne sont pas toutes les mêmes provinces qui ont la même réalité de risque de tremblement de terre, etc. Donc, il y a certaines particularités comme ça. Donc, chacune des provinces a son code de bâtiment, mais il y a quand même un guide en haut qui est fédéral.
OK. Mais est-ce que c'est des politiciens qui décident de ça? Est-ce que c'est des gens qui sont très au fait de l'industrie de la construction? Est-ce qu'on sait qui sont sur ce type de comité-là pour bâtir ces codes du bâtiment fédéraux?
Mais il y a des comités interministériels, beaucoup avec la régie du bâtiment, puis d'autres comités ministériels. Mais ouais, tu sais, on a vu dans les derniers jours, dernières semaines, le président de l'Ordre des architectes du Québec, c'est quand même pas rien, là, le président de l'Ordre des architectes du Québec,
ouais,
qui dit au gouvernement, mais pourquoi vous nous consultez pas plus?
Ben,
parce qu'on a plein, on vit avec le code tous les jours de notre vie.
Ouais.
Donc, on a plein de bonnes idées pour le simplifier, pour avoir des situations innovantes, puis on a l'impression que vous nous écoutez pas, vous nous consultez pas. Donc, le pas de recul que le ministre Boulay a pris aujourd'hui, non seulement il était nécessaire, je vais vous le dire autrement, c'était la seule chose intelligente et logique à faire dans l'économie compliquée qu'on est présentement.
Est venue de où la lutte sur les tremblements de terre?
J'ai aucune idée.
J'ai pas vu de bâtiment s'effondrer au Québec dernièrement.
Non, je comprends, là, je crois comprendre, puis là, c'est très technique, là, mais en parlant hier soir à certains de nos ingénieurs, je crois comprendre que la carte des calculs sismiques pour les tremblements de terre aurait changé au Canada, puis ça aurait inclus une partie de la vallée du Saint-Laurent. J'ai pas toute l'information. Mm-hmm. Maintenant, j'ai de la difficulté à comprendre. Maintenant, j'ai un peu la même réflexion que toi, Jeff, tu sais. Prenons, c'est ce que j'explique dans ma lettre ouverte dans les médias ce matin, prenons le CIRS à Fleur-de-Lys que tout le monde connaît, qui a été construit en 1963, mais tu sais, il a vécu 5 tremblements de terre, dont un très gros, que je me rappelle quand on était plus jeune, en 88.
Ouais.
Il a vécu de nombreuses tempêtes de neige dans le temps qu'il y avait encore des tempêtes de neige de 6 pieds.
Ouais.
Il a vécu plusieurs concerts de Metallica au Centre Vidéotron, puis il est encore debout en pleine forme.
C'est ça.
Fait qu'à un moment donné, il n'est pas tombé, le CIRS, là, tu sais, fait que... Il doit avoir un signe là-dedans. Là.
Depuis 2017, mettons qu'on prend 2017 jusqu'à 2026, l'augmentation des coûts de construction, ça a augmenté d'à peu près combien en pourcentage?
Dans le résidentiel, 75%. Donc, prenons l'autrement, OK? Prenons l'autrement, là.
Ouais.
Figurons ça, là. 0,7% par mois à chacun des mois de 2017 à aujourd'hui. Donc, 0,7% par mois à chaque mois. Fait qu'imaginez-vous, nous, on fait des projets à Fleur-de-Lys, là, ça nous prend 22, 24, 26, 28 mois à construire. Faut qu'on essaye d'anticiper pendant notre projet les coûts de construction qui augmentent.
Fait qu'un calcul rapide, là, ce qui coûtait, une unité qui coûtait en 2017 200 000, ça te coûte combien à peu près aujourd'hui en 2026?
350. Alors, tu sais, l'abordabilité, là, ça me préoccupe, OK? Puis le message là, que j'aimerais lancer aux gens aujourd'hui qui nous écoutent, là, il n'y a personne dans notre industrie qui est content que le prix des logements ne cesse d'augmenter. Là. On ne fait pas plus de profit puis de rentabilité qu'avant. Bien au contraire, nos marges baissent. Dans des projets, là, dans des gros projets multirésidentiels comme Fleur de Lys, là, on est dans le 4.35 de marge là-dedans. Puis il faut assumer le risque, il faut assumer des années de développement, il faut payer 275 membres de l'équipe Trudel à chaque deux jeudis. Tu sais, fait que les gens souvent disent « Ah, c'est un party, c'est un bar ouvert, le prix du logement. » Pas non, du tout, pas non. Du tout, les amis. Les coûts qui ont augmenté, là, il n'y a personne dans notre industrie qui est content de ça.
T'es aveugle d'être aussi rentable qu'un restaurant
qui est à 3%. J'ai déjà vécu dans un condo locatif, puis je m'étais rendu compte que ma salle de bain était vraiment faite pour les personnes à mobilité réduite. Elle était grande, là. Elle crème qu'elle était trop grande pour mon besoin. Mais ça faisait en sorte que j'avais de la misère à mettre une table de cuisine.
Ouais.
T'en penses quoi de ça? T'es, moi, je me dis, il devrait avoir, puis là, je donne l'exemple, si tu montes un bâtiment de 15 étages, ben il devrait avoir 3-4 étages où l'accessibilité est là, mais le reste, ça pourrait être fait différent. Il me semble que ça vous aidera au niveau des coûts.
Bien, il y a plusieurs choses là-dedans. Okay? Déjà, là, nous, chez Trudel, dans les immeubles qu'on a construits à Fleur de Lys, on est allé beaucoup plus loin que le code du bâtiment. Dans notre premier immeuble là, qui s'appelle le 21 mars, qui est habité présentement, 479 condos construits, 479 habités, 100% plein la journée 1, il y a 48 de ces condos locatifs-là qui ont été faits spécifiquement pour les personnes vivant avec un handicap, beaucoup plus loin que ce que le code nous exige. Okay. Okay? Fait que c'est important pour nous. Okay? Mais effectivement, Jeff, on en est venu à se dire que la bonne pratique maintenant dans nos immeubles, bien sûr, c'est d'être conforme au code. Sinon, de toute façon, on n'aura pas nos permis. Mais c'est de dire qu'on va faire quelques étages par immeuble complètement, totalement adaptés pour les personnes vivant avec un handicap. Okay, ça va aller beaucoup plus loin que ce que le code demande. Okay? Pourquoi que c'est exigé dans chaque logement? Mais la philosophie là-dedans est par rapport à la visite que tu vas recevoir. N'importe qui peut recevoir de la visite dans sa famille avec accessibilité difficile, vivant avec un handicap. Donc, c'est pour ça que ça a été demandé comme ça. Par contre, il y a d'autres choses qui ont des pistes de solutions. Je vais vous donner un exemple. Fleur de Lys, on fait toujours des toits-terrasses très généreux. Donc, tu peux habiter Fleur de Lys, marcher, aller voir tes amis, être dans une cour avec la végétation sur le toit du centre d'achat. Et c'est très bien, c'est très joli. Les gens adorent ça, OK? Mais vous ne pouvez pas savoir comment c'est compliqué puis que c'est réglementé de mettre de la végétation sur un toit au Québec, alors que ça marche dans toutes les autres sociétés à travers le monde. Je vais vous donner un exemple. Les végétaux qu'on met sur le toit, là, la hauteur est réglementée au cas que le végétal prend feu.
Okay.
La terre qu'on met dedans pour mettre nos végétaux, c'est pas de la terre normale qu'on achète au Floralie Jouvence comme tout le monde le samedi matin. Là. C'est de la terre qui a un terreau spécial qui va retarder le feu pour les racines. Okay? Je comprends ça, mais c'est dans un immeuble en béton avec des dalles de béton de 9 pouces armées qui est giclée aux 4 pieds carrés partout sur les 17 étages. Est-ce qu'on a réellement des données statistiques probantes qui nous disent qu'au Québec, on a un problème de toit-terrasse qui prend feu et c'est dangereux? Alors qu'en Californie, pour Moyen-Orient, qui fait beau et sec en tout temps, ils font à tour de bras puis ça ne cause pas causer de problème. Tu sais, à un moment donné, il faut que ça arrête. Je vais vous donner un autre exemple bien concret. J'ai visité des choses au Moyen-Orient dernièrement, puis je suis revenu avec une photo vidéo d'une piscine à débordement magnifique qui était comme un marbre noir, moi, avec une petite ligne or. J'ai dit à nos architectes, « Hey, dans notre nouvel immeuble à Fleur de Lys, il y a une piscine intérieure incroyable, on met ça là-dedans. » Ils se sont regardés, puis ils ont dit, « Mais on peut pas. » Je dis, « Pourquoi on peut pas? » Ben, on peut pas choisir la couleur de piscine qu'on veut. Pourquoi qu'on peut pas? C'est qui fait la piscine.
C'est normé. La couleur de piscine est normée.
Bleu pâle, blanc pâle. Beige pâle. J'ai dit, pourquoi? Ben pour que quelqu'un nage en dessous de l'eau, on voit les vêtements qui font une différence avec la couleur. Encore là, je répète une fois. Est-ce qu'on a des données scientifiques probantes qui nous disent que dans les autres sociétés industrialisées, quand ils choisissent des couleurs de piscine différentes versus nous autres, c'est plus ou moins dangereux?
Oui, qu'il y a plus de noyades par nageur, je veux dire comme ça.
Y a-t-il une étude à Régie du bâtiment qui m'ont pas dit, qui dit ça? Pourquoi que ça marche en Asie, ça marche au Moyen-Orient, ça marche aux États-Unis, ça marche en Europe, ça marche pas ici? Pourquoi?
Fait que t'as répondu à ma question de la lubie du tremblement de terre avec ces deux exemples. Donc, non, mais c'est vrai.
Donc, il y aurait du zèle au niveau de la sécurité, alors qu'actuellement, c'est très, très sécuritaire. Merci. Puis ce zèle-là ferait en sorte qu'on dépasserait probablement la qualité, la possibilité à des gens qui ont un salaire moyen d'avoir accès au logement. Là.
C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'en essayant de guérir quelque chose qui n'est pas malade, tu fais que monsieur, madame, tout le monde sont plus capables de se loger comme il faut dans le futur. Est-ce qu'on veut ça comme société? Là, c'est notre rapport au risque, les amis, notre problème dans la société au Québec, d'où le nom de mon titre, la société du banc de neige dangereux. T'sais, on réglemente un banc de neige dans la cour d'école. Faut pas qu'il soit trop haut, faut pas qu'il y ait trop de pente, faut pas que les jeunes déboulent trop vite. Pis à cause des commotions cérébrales, je suis totalement d'accord que les commotions cérébrales, là, ça a des coûts de santé, puis on veut pas ça. Mais là, on est rendu à réglementer les bancs de neige. Mais imaginez-vous cette philosophie-là, au municipal, au provincial, au fédéral, dans des projets de milliards de dollars. C'est des centaines de millions en coûts, en extra, qu'il n'y a aucun autre choix, aucune autre magie, ça se transfère directement dans le coût du logement.
Avec le nouveau code du bâtiment qu'on remet dans 12 mois, est-ce que tu as l'impression qu'on va l'abandonner totalement? Parce que tu nous parles dans ta lettre ouverte dans le Journal de Québec, tu nous parles d'une augmentation additionnelle, advenant le cas où le nouveau code du bâtiment arrive, là, de 5 à 8 % pour ce qui est de la construction.
Minimum. Puis attention, la PCHQ dit que ça va être 5 à 8 % de coûts de construction de plus. Moi, je vais vous donner l'autre côté de la médaille de ça.
Oui.
C'est combien d'appartements puis de condos de moins qu'on va faire. Parce que, trompez-vous pas, là, si j'agrandis les cages d'escalier de secours, si j'agrandis les corridors, si j'agrandis les choses comme ça, il y a moins de superficie locative qui génère du revenu. L'immeuble vaut moins cher, je vais être obligé de répartir l'extra coût de construction sur moins d'appartements qu'avant, le coût du logement va augmenter en flèche.
En terminant, dans ta lettre, tu dis « Adoucissons les règles de zonage. Ayons une vraie discussion sur les codes du bâtiment. Réfléchissons à toutes les taxes et les impôts sur le logement. Questionnons-nous sur la pénurie de main-d'œuvre en construction, la gestion des bassins de travailleurs et leurs impacts sur les prix. » William Trudel, pourquoi tu tiens à te faire entendre de cette façon-là? Tu ne serais pas obligé. Tu pourrais continuer à bâtir tes affaires, puis ta business irait bien, puis elle roulerait comme sur des roulettes.
Mais parce que ça me préoccupe beaucoup, l'abordabilité.
Il y a des
logement.
Élections à Québec dans quelques années.
On en a déjà parlé souvent. j'en ressors-tu ma cassette?
Oh oui, vas-y.
Ah, mon travail, c'est d'être président, fondateur, chef de la direction du groupe Trudel. J'ai beaucoup de plaisir avec les 275 membres de l'équipe. Oui. On développe des projets extraordinaires pour la communauté de Québec. Pour le moment, je me concentre là-dessus.
Les gars,
David Chabot.
Oh, salut, David.
David Chabot, m'as-tu bien entraîné à sortir
ça
la cassette?
Ça va pas. On va parler à Chabot lundi, là, bam.
Donc, il m'appelle le soir, puis il m'a fait pratiquer.
Oui. Donc pourquoi tu t'occupes de ça? Pourquoi tu t'occupes du bien-être des citoyens pour l'accès au logement?
C'est préoccupant pour moi, pour tout le monde, pour notre communauté. Mais pour que notre industrie soit en santé, il faut que les gens qui ont besoin d'avoir accès à un logement puissent trouver leur logement, puis puissent trouver leur logement à un prix qu'ils sont capables de se payer puis qui marche dans leur budget familial.
Ouais.
C'est tout un écosystème, c'est toute une chaîne alimentaire qui en dépend. Puis nous, le développeur de gros projets, on est en haut de la pyramide de la chaîne alimentaire. Mais si en bas de nous, dans la chaîne alimentaire, les gens ne sont pas en santé dans leur budget familial, c'est des mauvaises nouvelles pour toute la société.
Est-ce que Jean Boulet a pris acte de ta lettre?
Probablement. Je sais qu'on a eu en privé plusieurs discussions hier avec des hauts émissaires du gouvernement qui nous demandaient, écoute, pouvez-vous nous expliquer les impacts de ça, etc., parce qu'il était en train d'évaluer à reporter la décision. Maintenant, je vous dirais qu'il y a certaines sociétés comme la Colombie-Britannique, dans les dernières années, qui ont complètement pris l'approche inverse. Ils se sont rendus compte que le coût du logement en Colombie-Britannique n'avait plus de bon sens et ils ont pris l'approche inverse de dire à des comités d'experts comment on peut simplifier notre code du bâtiment. Je vais vous donner un exemple super simple. Deux cages d'escalier de secours dans un immeuble. Mais imaginez-vous une cage d'escalier de secours sur 17 étages. Là, vous voyez les escaliers puis la rampe, hein? Mais derrière ces murs-là, là, il y a beaucoup d'acier. Il y a des gros X en acier. Les empattements qui sont creusés dans le sol pour le contreventement sont surdimensionnés. C'est des millions de dollars, là. Beaucoup de millions de dollars, une cage d'escalier de secours sur 17 étages. Et c'est des dizaines d'appartements en moins que tu vas construire dans l'immeuble. Il y a certaines sociétés en Europe très bien industrialisées, démocratiques, développées comme nous en Europe, qui ont décidé qu'ils mettent une cage d'escalier un petit peu plus grosse au lieu d'en mettre deux et ils la mettent au centre de l'immeuble. Et comme l'immeuble est en béton et giclé, c'est un risque tout à fait acceptable. Mais tu sais, nous autres au Québec, on n'est pas là-dedans. On est en train de se dire qu'on va les faire plus grosses. On s'en va pas dans la bonne direction, les amis.
En effet, puis on manque de logements et on consomme moins de logements en raison de ça.
Et voilà.
À lire ce matin dans la section opinion du Journal de Québec, Journal de Montréal, la Société des bancs de neige dangereux. C'est un texte d'opinion du président et chef de la direction de Trudel, William Trudel. Un gros merci d'être passé.
Merci, ça fait
on
plaisir.
On parlera dans quelques semaines en espérant que tout ça aille pour le mieux, pour vous autres puis pour les gens qui veulent avoir accès au logement avec un prix décent. Merci. Marceau le matin. Marceau.